Bonjour Alain Baraton.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Les racines ne se limitent pas à fixer le végétal dans la terre. C'est un rappel qu'il faut faire ce matin.
Oui, elles absorbent aussi l'eau qui va conduire dans les tissus des plantes les oligo-éléments et les sels minéraux, indispensables à leur alimentation. Mais ça, nous le savons. Ce que nous savons moins est que ce sont les extrémités des racines qui détectent puis analysent la lumière, l'oxygène, l'humidité et la gravité terrestre. Les racines sont donc en quelque sorte le centre de commandement du végétal, raison pour laquelle elles se développent plus vite que les branches et le tronc pour mieux être en mesure d'évaluer l'environnement.
Et est-il vrai que le volume des branches d'un arbre correspond au volume de ses racines?
C'est tout à fait exact. Aussi, il serait logique, quand on parle de la hauteur d'un arbre, d'y ajouter la longueur des racines. Le séquoia qui atteint, c'est le record du monde, 115 mètres de hauteur, fait en réalité, avec ses 40 mètres, 150 mètres de hauteur, ce qui est considérable.
Leur longueur peut aussi être incroyable.
Elles peuvent même donner le vertige. Les botanistes se sont intéressés à un plant de seigle, une céréale cultivée partout en Europe, et ils ont découvert qu'un pied, j'ai bien dit un pied, un seul, pouvait produire dans à peine 0,05 mètre cube de terre, ce qui correspond à 1 mètre carré sur 5 cm, une longueur de 623 km de racines.
Vos conseils à présent aux auditrices et auditeurs de France Inter. On commence avec Alexandre. Il voudrait vous parler de sa belle-mère. La belle-mère possède deux figuiers.
Bah oui.
Deux figuiers de 25 ans. Alors, un a les feuilles complètement fanées. L'autre, une branche où les feuilles sèchent. Les arbres n'ont jamais été arrosés ni traités. Que se passe-t-il?
J'en profite pour rappeler que quand on parle de la plante de la belle-mère du grand-père, ça fait plaisir. Cela signifie que l'on associe souvent la plante au milieu familial. Moi, ça me fait du bien. Pour répondre aux questions sur le figuier, lorsque deux plantes côte à côte ont un souci, quand les feuilles sèchent, c'est qu'il y a forcément un problème. Un problème dans l'air, vérifier s'il n'y a pas eu des produits qui ont été dispersés, ou surtout un problème dans la terre. On n'y pense jamais, mais les racines se déplacent. Alors, elles ne courent pas, mais elles grandissent. Et elles finissent parfois par atteindre des zones qui ne leur sont pas tellement profitables. Elles peuvent atteindre, par exemple, d'anciens puits, d'anciennes zones polluées, ce genre de choses. Donc il faudrait aller jeter un petit coup d'œil sous terre pour voir ce qu'il en est. Ce qui est sûr, quand une plante en apparence a les feuilles qui sèchent, la meilleure méthode pour régler la solution ou tenter d'y remédier, c'est un arrosage copieux.
Un phénomène étrange, selon Frédéric, qui vous interpelle, Alain. Depuis plusieurs années, dit Frédéric, nous avons dans le jardin une matière visqueuse qui apparaît et qui disparaît.
Le crachat du diable.
C'est quoi?
Oh, c'est terrible. On l'appelle également Nostoc. C'est une cyanobactérie, effectivement. Le matin, vous vous réveillez et vous avez comme un truc gluant. C'est bizarre. On dirait vraiment qu'un diable, de nuit, a craché sur votre jardin. Alors, il aime les terres pauvres. Il n'est pas évident de s'en débarrasser.
Et c'est néfaste?
Voilà. Alors, c'est pas néfaste. On l'utilise même aujourd'hui de plus en plus en médecine parce qu'on pense qu'il y a comme quantité de substances à l'intérieur qui pourraient être guéries. Alors ce n'est pas une algue, ce n'est pas de la mousse, c'est comme une gélatine curieuse. Quand on en aperçoit, on ratisse, on met sur le tas de compost. Il n'y a pas grand chose à faire contre le nostoc ou crachat du diable. Mais allez voir sur internet à quoi ça ressemble, il y a vraiment de quoi être inquiet.
Ouais, ça fait pas envie, effectivement. Ah oui, mais ce n'est pas dangereux, dites-vous. Donc,
non, mais quand ça glisse, ouais, attention. Vous avez des enfants qui jouent sur une terrasse, par exemple, vous en avez, les risques de chute sont énormes.
Le citronnier de Marie, à présent. Il était magnifique, mon citronnier, écrit Marie. Il était sur la terrasse. Alors, il a souffert, certes, des cochenilles et ses feuilles sont toutes collantes. Elles tombent une après les autres. Est-ce que mon citronnier est condamné?
Oui, alors déjà, je suis pas sûr que ce soit les cochenilles qui rendent les feuilles collantes. Ça, c'est souvent la fumagine. Ce sont les insectes piqueurs qui se nourrissent de la sève, qui vont déposer sur la feuille des excréments. Et cet excrément favorise un champignon qu'on appelle fumagine, ça noircit la feuille et ça devient collant. La cochenille sur une plante en pot, on prend le bâtonnet, régulièrement on vire la petite bestiole, c'est comme un petit bouclier qui est posé sur la feuille, on n'hésite pas non plus à nettoyer avec un petit coton imbibé d'eau tout simplement les feuilles, mais pour lutter contre la cochenille pour un modeste citronnier en pot, là, c'est même pas l'huile de coude. J'ai un petit peu de volonté.
Rapidement, Alice, dans l'agglomération bordelaise, elle est envahie de moustiques à tel point qu'elle ne peut même plus aller dans son jardin. Y a-t-il des plantes qui auraient une action un peu répulsive contre les moustiques?
Non, et si ça se savait, on en mettrait beaucoup.
Allez, on termine avec un dernier conseil.
Il suffit de passer le pont, le titre est magnifique. C'est un ouvrage tout aussi magnifique de Jean-Marc Sor. Il est publié aux éditions Plume de Carotte. Il suffit de passer le pont, ce sont les paysages d'Occitanie sauvage. Un très bel ouvrage de photos. C'est une invitation invitation à découvrir une région qui ne manque pas de beauté. En fait.
Merci. Alain Baraton, le jardinier de Versailles.